Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens. Très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Et aujourd'hui, je reçois Stéphanie Maubé. Bonjour Stéphanie Maubé.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Sur France Inter.
Stéphanie Maubé, vous êtes bergère, mais vous n'avez pas toujours été bergère. Vous êtes une néo-rurale, c'est ça ?
Oui, vous avez une néo-bergère.
Vous avez tout quitté, quitté Paris, votre travail, il y a combien de temps ? Combien
d'années ? Il y a 12 ans maintenant.
Ouais. Et vous êtes contente toujours de votre choix ?
Incroyablement heureuse et pleine de certitude que c'était le bon choix et qu'il faut absolument continuer.
Le bon choix de changer complètement, radicalement de
vie. Le bon choix de vie, le bon choix technique d'un point de vue agricole, comme on va en parler, le bon choix de valeur personnelle, le bon choix de hiérarchiser sa vie.
Et le bon choix des animaux, les brebis, c'est le bon choix ?
Les brebis et moi, c'est un amour qui ne se dément pas.
Bon, d'accord. Stéphanie Maubé, vous avez choisi comme journée particulière le 5 janvier 2012. Ce jour-là, vous viviez votre premier agnelage.
Berger, il faut toujours qu'il soit là. L'hiver, l'agnelage. Eh bien, si on va se coucher, on pense aux bêtes et on pense que la nuit, il faut se lever à l'agnelage. Il faut se lever, contrôler les bêtes. Ces petits agneaux qui naissent, si on n'est pas là pour souvent de fois leur aider à naître, ou si la bergerie n'est pas trop chaude, si s'ils ont froid, il faut leur aider à naître, vous voyez.
Armand, est-ce qu'à votre avis, il faut avoir vocation pour être berger ?
Oui. Il faut aimer les bêtes pour faire un berger.
Il faut vivre avec elles.
Pour vivre avec elles, il faut aimer les bêtes.
Archivina de 1976, Stéphanie Maubé, il faut aimer les bêtes, il faut les couver.
J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire, il faut vivre avec elles, parce que c'est complètement ça. Vivre avec un troupeau, c'est adopter son rythme et son mode de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai conditionné toute ma vie autour du cycle du troupeau. Et je dirais même que dans ma famille, on s'est aussi cyclé autour du troupeau. C'est-à-dire que ma sœur, quand elle se marie, pour choisir la date de mariage, elle me demande quelles sont les dates incontournables de gestion du troupeau, et puis elle cale sa date en fonction de ça.
Alors pour vous, pourtant, ce 5 janvier 2012, vous ne saviez pas ce qui vous attendait. Vous étiez seule pour la première fois avec vos brebis. Au moment de l'agnelage, l'agnelage c'est quoi exactement ?
L'agnelage, c'est ce moment où les brebis mettent bas. Et on sait tous que le mouton a un instinct grégaire, et cet instinct grégaire, il est encore plus intense au moment des mises bas, puisque toutes les brebis mettent bas presque en même temps, sur une petite période de 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire qu'elles ont toutes pris le bélier en même temps, 5 mois plus tôt. Et alors à la fois de manière biologique, elles sont donc cyclées les unes sur les autres, mais aussi beaucoup de manière comportementale. Et cette période de mise bas, elle est très intense en travail. Et puis donc les brebis ont ce truc étonnant, quand il y en a une qui se met à mettre bas, il y en a 10 ou 15 qui dans la même nuit ou la même journée font leurs petits.
Et ça veut dire que vous, Stéphanie Maubé, vous êtes là à côté de vos brebis, vous les aidez à mettre bas ?
Elles n'ont pas toutes besoin de la même aide, mais toutes les brebis ont besoin d'une forme d'assistance. Certaines ont besoin d'une assistance directe et technique, c'est-à-dire pour faire sortir l'agneau, soit ouais. Parce qu'il a une grosse tête, elles n'arrivent pas à le sortir, ou parce qu'il est mal placé, ce qui peut arriver, donc il faut plonger son bras dans l'utérus, retourner l'agneau dans la poche, bien le positionner, le sortir. Parfois, il y a 2 agneaux en mêlée, donc il faut démêler les agneaux dans la poche pour les sortir l'un après l'autre. Donc, il y a des interventions comme ça, très techniques, et puis qui se jouent à quelques minutes près. C'est-à-dire que si on n'intervient pas vite, les agneaux peuvent mourir, et la brebis aussi. Et puis, il y a d'autres interventions qui sont un petit peu plus distantes, un peu plus du ressort du coup de pouce bienveillant à distance, c'est-à-dire que quand une brebis a mis bas toute seule d'un agneau ou de 2 agneaux, il faut l'aider à l'isoler pour pas qu'elle soit perturbée dans ses premières minutes de maternité pour pas qu'elle soit perturbée par les autres brebis, par le reste du troupeau.
D'accord.
Donc on prend la brebis, son tout jeune agneau, et puis on les met dans une petite case individuelle, un tout petit enclos très douillet, rempli de paille, parfois alimenté avec une lampe rouge chauffante pour que l'agneau grelottant puisse se réchauffer plus vite. Et il faut dans ces cas-là être comme une amie bienveillante ou comme une infirmière distante avec la brebis et lui envoyer comme signal: je suis là pour toi ma grande, t'as qu'à appeler. Si t'as soif, si t'as faim, si ton môme est mal éduqué et qu'il n'arrive pas à trouver la mamelle, je suis là. Mais si t'as pas besoin de moi, je t'emmerde pas.
Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce 5 janvier 2012? Parce que les choses se sont pas tout à fait passées comme vous venez de les décrire, Stéphanie Maubet.
Cette année-là, c'était la première fois que je me retrouvais totalement indépendante dans une bergerie avec tout mon troupeau.
Combien de brebis?
Il y avait une centaine de brebis.
Ouais.
Il y en avait peut-être une qui avait mis bas la veille ou l'avant-veille, donc je sentais
que
ça allait exploser bientôt. D'autant que visuellement, ça se voit. C'est-à-dire que les brebis sont énormes. Elles ont un bide démesuré.
Ouais.
Quand on les regarde de face, le ventre dépasse de chaque côté du corps. C'est très impressionnant. Elles ont des mamelles qui commencent à gonfler, qui sont très roses. Elles ont la vulve aussi qui est beaucoup plus foncée, une espèce de rose chewing-gum, rose malabar. Donc tous les signes sont là. On se dit, ça va arriver d'une journée à l'autre. Il y a des agneaux qui vont jaillir de partout.
Et alors?
Et puis
cette première fois, en
fin de journée, donc je finis mon boulot en bergerie, je mets du foin à tout le monde, des céréales, je vérifie que tout le monde a de l'eau. Et puis je reviens un peu plus tard, vers 22h ou 23h, pour faire une tournée comme chaque nuit à cette époque-là, une tournée de surveillance. Et puis soudain, dès 22-23h, plein d'agneaux dans la bergerie, des agneaux qui venaient de naître, c'est-à-dire tout gluants, plein de liquide amniotique, pas encore léchés, et puis des agneaux répartis partout et des brebis parfois avec leur agneau, parfois cherchant quel était l'agneau qu'elle venait de faire, parce qu'il y en avait plein, elle savait plus qui il fallait lécher ou par qui se faire téter. Et une nuit entière à me dire, mais mon Dieu, mais quel agneau est sorti de quelle brebis? Et les mettre dans des petites cases isolées pour qu'ils soient sereins et que la maman puisse se consacrer à son agneau.
Et elle vous laissait vous approcher d'elle, les brebis, parce
alors,
qu'elle ne vous connaissait pas encore,
pas toutes,
Stéphanie
Maubet. Parce qu'effectivement, c'était la première année où j'avais constitué mon troupeau, donc c'était des brebis qui n'étaient pas nées chez moi, qui ne me connaissaient pas. Et l'arrivée en bergerie, traditionnellement, chaque hiver, c'est le moment où les relations s'intensifient entre l'éleveur et les animaux, puisqu'on est soudain dans un petit espace clos, contrairement à l'été, où les brebis sont en pleine nature, elles vivent en liberté. Et dans mon cas, elles vivent sur 300 hectares dans des espaces magnifiques où elles sont mélangées à d'autres troupeaux. Donc autant vous dire qu'à l'année, mes brebis, elles n'en ont rien à faire de moi.
Ouais.
Le lien, il devient plus intense au moment où je les rentre en bergerie, où elles comprennent que si elles veulent manger, il faut être sympa avec moi, parce que c'est moi qui vais distribuer le foin, c'est moi qui actionne l'eau. Et le rapport devient un petit peu plus, il y a un peu plus d'interaction entre elles et moi. Sauf que cette première année, ce troupeau de brebis, elle n'avait jamais été dans cette situation d'intimité avec moi, qui était leur nouvelle éleveuse, parce qu'elles étaient nées sur d'autres élevages, et j'avais constitué mon troupeau le printemps précédent, en achetant des brebis dans plusieurs élevages différents, et en leur disant, bon bah écoutez les filles, vous ne vous connaissez pas encore vous-même, mais sachez que maintenant vous êtes un troupeau. Et puis même sachez que je suis votre chef de troupeau. Et cette relation-là, elle est longue à prendre, elle se fait sur plusieurs années. Et ces brebis-là, qui ne me connaissaient pas encore bien, me regardaient avec défiance. Et elles étaient dans des impulsivités physiques, que parfois ça se finissait en prise de judo. Hein. Fallait que je les attrape, que je les maintienne de force, que je les retourne, que je les force à rentrer dans des petits enclos, que j'attrape plusieurs agneaux possibles en leur mettant sous le nez pour qu'elles le sentent. Et parfois elles disaient « Ah oui, c'est le mien, oui, je l'accepte. » Et parfois elles disaient « Ah non, il a été léché par quelqu'un d'autre, je sais pas d'où sort cet agneau, mais je ne l'allaiterai pas. » Et une brebis qui veut pas allaiter un agneau, elle lui met des coups de tête, elle lui met des coups de patte, c'est épouvantable.
Donc cette nuit du 5 janvier, ça a été épique pour vous?
C'était physiquement épique, nerveusement aussi, parce que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette bande de connasses, enfin? Et l'instinct maternel, enfin ce sont des ruminants, ce sont des herbivores, elles sont censées avoir l'instinct maternel chevillé au corps et dans leurs gènes. Et là, ça se passait pas du tout comme je voulais, puisque je me retrouvais avec plein d'agneaux non léchés, non allaités, dans les bras, en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne peux pas nourrir au biberon cette bande d'agneaux. Enfin, ils sont bien sortis d'un ventre. Il y a bien quelqu'un qui les a conçus, fabriqués pendant 5 mois et qui vient de les faire naître. Et il y a des mamelles pleines de lait qui ne demandent qu'à être bues. Il faut que je trouve l'agneau qui colle avec chaque brebis.
Et en plus, ce jour-là, ce 5 janvier 2012, c'était la tempête.
C'était le début de plusieurs jours de tempête qui était épouvantable parce que ce qui me sert de bergerie, c'est un tunnel ou une serre. C'est-à-dire que c'est une structure métallique sur laquelle est posée de la bâche plastique.
Ouais.
Et cet hiver-là, ma bâche s'est envolée à cause des tempêtes.
Donc il pleuvait sur vos brebis.
Il pleuvait,
c'était vos agneaux.
Apocalypse, hein, c'était un baptême du feu. Il manquait effectivement que les éclairs ou qu'un espèce de dieu vengeur qui m'aurait balancé des éclairs et la foudre. Mais ce qui m'a fait tenir cette nuit-là, c'était de me dire que si j'y survivais, si mes agneaux y survivaient, plus rien ne pourrait me faire peur dans toute ma future carrière d'éleveuse et de bergère. Et que ça souderait le troupeau et moi dans un espèce de lien indéfectible.
Alors en 2012, on était en pleine redécouverte du ukulélé. Vous devez vous demander pourquoi je vous parle d'un seul coup du ukulélé, mais c'était vrai. Et la reprise de cette chanson qu'on va écouter, Stéphanie Bobé, y est pour beaucoup.
Quelle chanson gavée.
Stéphanie Mombé, vous vous souvenez de cette chanson?
Oui, et je vous remercie de m'envoyer un arc-en-ciel après les choses épouvantables que je viens de vous raconter sur la tempête normande.
Ah oui, d'accord.
Le ukulélé, quand vous l'avez cité, moi m'évoque toujours Marilyn Monroe dans Certains l'aiment chaud.
Bien sûr.
Où elle chante comme une déesse, ouais, avec sa jupe à franges et son ukulélé.
Alors, le 5 janvier 2012, c'est votre journée particulière, Stéphanie Maubé. Ce jour-là, vous étiez seule dans votre bergerie avec une centaine de brebis pour les aider à mettre bas. Vous avez raconté comme c'était difficile d'établir une relation au début avec vos brebis. Combien d'années il vous a fallu pour que un lien se crée entre... On peut parler d'un lien, hein, d'un vrai, une véritable lien,
d'un lien oui.
avec vos brebis, qu'elles vous reconnaissent comme maîtresse.
Je pense qu'il faut 3 ou 4 ans. Au moins 3 ans, parce que chaque année, on garde dans un troupeau, on garde une partie des petites femelles pour les faire devenir des mères,
ouais.
et on réforme les plus vieilles brebis. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, il y a presque la moitié du troupeau qui est composée de petites femelles que j'ai fait naître et qui sont nées chez moi, qui n'ont connu que moi. Et c'est quand ces petites femelles nées chez moi représentent 40% ou 50% du troupeau que là, le sentiment de confiance et d'unité commence à prédominer sur la méfiance.
Salut les filles. C'est le matin. Tiens. Salut Salicorne. Salut la grande. Tu as fait tes petits? Tu les as fait quand on avait le dos tourné? Ils sont beaux ces petits. Ouh là là. Ils sont beaux là. Viens, on va te mettre là. On va te mettre là. Hop. Alors, attends, on va te mettre avec ta maman. Où est mon petit loulou? Attends, on va te chercher ta maman. Viens. Le petit frère. Ouais. Tu as fait du beau boulot. Et attends. Attends, parce qu'on va pas leur coincer une patoune. Est-ce qu'ils ont bu ces petits? Mais je n'en suis pas sûre en fait. Allez, lève-toi. Ils ont bu ces enfants-là? Tiens, hop.
Stéphanie Maubé, c'est un extrait du film Jeune bergère de Delphine Détry qui vous a été consacré. Vous leur parlez beaucoup à vos brebis, hein?
C'est ce que j'étais en train de réaliser, puis je leur parle comme à des bébés.
Ouais.
Mais oui, je suis très bavarde, et puis je passe tellement de journées seule que je parle beaucoup à mon chien, beaucoup à mes moutons,
ouais.
beaucoup toute seule. Oui, oui. La voix fait partie des choses qui contribuent à créer du lien avec les animaux, notamment quand je me rends en bergerie la nuit. C'est-à-dire que pour ne pas les effrayer, je signale ma présence dès que je descends de la voiture en expliquant « Salut les filles, j'arrive, pas de panique, vous levez pas, je fais juste une petite tournée. »
Et ça marche? Elles ne se lèvent pas?
Maintenant ça marche, mais les premières années, elles bondissaient au plafond quand j'arrivais en pleine nuit, bien sûr. Mais maintenant, oui, j'arrive à les enjamber, elles restent comme des grosses dondons endormies. Donc le lien par la voix fonctionne.
Et avec certaines, vous avez des relations privilégiées. Comment ça se passe? Il y a des personnalités dans ces brebis?
Il y a des personnalités. Peu d'entre elles ont une personnalité. Je dirais environ 20% d'entre elles seulement ont une personnalité qui s'exprime. Le reste, les 80 autres pourcents, ce sont des brebis du milieu.
Ouais.
C'est-à-dire des brebis qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'être confondues avec leurs voisines et de ne jamais s'en éloigner. Mais il y a à peu près une brebis sur 5 qui est soit une dominante, soit une leaduse, soit une malchanceuse, soit une brebis un peu plus familière qui vient chercher le contact et dire bonjour ou montrer ses agneaux ou appeler au secours quand ça va pas. Et celle-là, en général, je leur donne un prénom. Enfin, je m'autorise à m'attacher.
Ah, vous vous autorisez à vous attacher avant de, parce que c'est très difficile de s'attacher parce qu'il va falloir se séparer, c'est ça?
La séparation, elle est avec les agneaux, c'est-à-dire que je produis des agneaux et ce sont les agneaux qui sont envoyés à l'abattoir avant qu'ils aient un an. Donc c'est surtout avec les agneaux qu'il faut pas s'attacher et qu'il faut être très lucide sur les raisons pour lesquelles on fait ce métier. Je produis de la viande et je déplore que certains éleveurs aient parfois un discours ambigu en disant « Ah non, mais moi, je peux pas voir mes animaux partir, ça me fait trop mal. » Ou « Moi, je mangerai jamais de mouton. » Non, ma lucidité, c'est de dire « J'élève des agneaux pour qu'ils soient mangés. » Donc, le postulat entre le troupeau et moi, il est honnête et il est clair. Donc, je m'attache pas aux agneaux. Les brebis, j'essaye de pas trop m'y attacher, surtout qu'elles sont pas demandeuses pour la plupart d'entre elles. Mais quand il y a quelque chose qui se crée, ça se crée. Et une brebis, elle passe 7 ans sur mon élevage. Donc 7 ans, c'est aussi 7 hivers à passer du temps ensemble en bergerie tous les jours. Donc immanquablement, le lien se crée avec certaines. Et donc, oui, je m'y autorise.
Alors, en ce moment, c'est qui? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait une qui s'appelait Bernadette, que vous avez...
Alors, Bernadette, c'est un grand problème. C'est que oui, c'est la leaderuse du troupeau. Et en fait, c'est épouvantable parce que Bernadette commence à être âgée. Elle a 9 ans. Et c'est un âge déraisonnable, canonique pour une brebis. Et je ne peux pas me séparer d'elle parce que j'ai besoin de la présence de Bernadette et des ondes qu'elle envoie au reste du troupeau, puisque je gagne beaucoup de temps grâce à Bernadette quand il faut passer d'un champ à un autre ou emprunter un nouvel itinéraire, un nouveau chemin. Bernadette, elle est connectée avec moi et avec le chien de troupeau. Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai besoin de Bernadette. Et j'ignore comment je vais gérer ces dernières années, puisque une brebis qui devient trop âgée, d'abord, elle peut mourir de vieillesse.
Ouais.
Ou si elle fait des petits en étant trop âgée, elle peut mourir de faiblesse. Ouais. Et donc, Bernadette, il faut que je lui mette une ceinture de chasteté. Non, sérieusement, je ne sais pas comment gérer parce que j'ai besoin de cette brebis. J'ai essayé de garder toutes les petites femelles que Bernadette a fait pour voir si ça se transmettait de mère en fille.
Ah oui,
ce sens de l'orientation et ce lien particulier. Mais apparemment, non, ces filles sont un peu délurées. Elles n'ont pas ce sens du chef de groupe qu'elle a.
Bon, alors Bernadette, et elle est sympa cette Bernadette?
Oui.
Elle est câline, elle est...
Non, les moutons font pas des câlins, il faut pas attendre ça d'eux. Contrairement aux chèvres ou aux chevaux, qui viennent spontanément au contact avec leur éleveur et qui font des contacts, des petites gratouilles sur les joues, les moutons sont quand même plus distants. C'est-à-dire que ça peut être moins satisfaisant pour quelqu'un qui voudrait devenir éleveur parce qu'il est en quête d'une relation proche avec ses animaux. Il serait frustré avec les moutons parce qu'on fait pas tellement de câlins.
Le pays du vent, des ciels lumineux ou bien violets et gris, le pays du sel, des sables trempés qui ne finissent qu'à la mer tiède, c'est là entre Cherouet et le Mont-Saint-Michel, le plus vaste terrain maritime de France. 8 fois par an, au marais de plus de 100, la mer couvre tout. Seule vie, les moutons. 2500 sur 1000 hectares d'herbus et 19 bergers dans cette étendue. Quand ils disent « je monte aux moutons », cela veut dire « je vais les chercher vers la mer ». Depuis les bergers d'Arcadie, un des plus vieux métiers du monde, un métier d'homme simple, mais qui, comme personne, sont en contact avec la vie animale, la vie de la mer, les eaux, le soleil.
Je m'appelle Jean Lucel. Je garde les moutons environ depuis 20 ans. Alors moi, tous les jours, comme ça, je viens au pré-soleil. Je monte mes moutons en haut. Je descends en général à la cabane de mon copain pour passer mon temps. J'allume du feu et je mets à lire les moutons. L'été, on est très heureux ici. On n'a rien à faire. Les moutons, on va les voir une fois par jour. Si on a le temps, comme on dit. Comme il fait très chaud, on aime mieux rester à l'ombre dans nos cabanes. Et quelquefois, ils nous prennent fantaisie, quand les moutons sont bien, qu'il fait très chaud, d'aller se promener en mobylette ou en vélo. C'est l'hiver que c'est trop dur. Mais l'été, on ne se rend jamais parce qu'on se promène par les plaies salées. On va voir la mer, on se promène.
C'est une archivina de 1960, des années 60, Stéphanie Maubé. Donc c'est des bergers de pré-salés. Vous êtes une bergère de pré-salés. Vous emmenez vos brebis dans les pré-salés.
D'abord, merci pour cette archive. Elle est magnifique. Elle est très émouvante.
Et vous, alors oui, elle est émouvante parce que ces hommes disent comme ils aiment ce paysage et aussi comme ils s'y prélassent.
Oui, et j'ai envie de dire que ce berger pourrait refaire aujourd'hui la même interview.
Ouais.
50 ans après, puisqu'en fait le métier d'éleveur de pré-salés n'a pas tellement changé. Il a tout dit en quelques mots. Il a dit il y a le soleil, il y a le vent, il y a les heures de marée, il y a le troupeau et il n'y a pas d'ombre. C'est très chouette qu'il le souligne, parce qu'effectivement les pré-salés qui d'un point de vue extérieur donnent une impression de grande étendue paisible, en fait c'est un univers assez rude parce qu'il n'y a pas d'obstacle au vent ni d'endroit ombragé.
Alors lui parle de quand dans l'archive il parle de cabane.
Mais c'est un super luxe, moi je n'ai pas de cabane.
Ah, vous n'avez pas de cabane pour aller lire?
Non, je n'ai pas de cabane pour aller bouquiner ou faire des sudoku en regardant les moutons.
Non, rien de ça. Et vous n'avez pas de mobylette non plus pour aller faire un petit tour l'été?
Non, alors on ne pourrait pas... dans mes présalés à moi, il y a beaucoup de reliefs. C'est-à-dire que la mer, chaque fois qu'elle monte et qu'elle se retire tous les mois, elle creuse des petits ravins qui sont comme des petits fossés pleins de vases. On appelle ça la tangue, la vase de chez nous. Et on s'y enlise. Donc on ne peut pas aller ni en quad, ni en mobylette, ni en vélo. Même pas à cheval.
Mais quand la mer monte, les brebis, elles restent ?
Non, les brebis n'ont pas l'intuition de se mettre à l'abri toutes seules, donc c'est à l'éleveur d'aller les chercher la veille des montées de la mer trop dangereuses. On remonte tout le troupeau et on les met en sécurité sur des parcelles, donc d'autres prairies qui ne sont pas submersibles.
Et à vous, coquille, avance-le, oui. Avance-le, oui. Pas de miner. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
allez. Avancez le mort. Avancez le mort. Avancez. Hey. 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 Regardez-moi ce con.
Là, tous les moutons qui reviennent.
Encore une archive des années 60, on l'a choisie spécialement pour vous, Stéphanie Maubet. C'était un berger avec son chien. Évidemment qu'avec votre troupeau, vous avez un ou plusieurs chiens. Et j'ai cru comprendre que vous ne parliez pas bien du tout le chien.
Oui, le chien, c'est le point noir
de
ma profession. C'est une relation très très particulière, le chien de troupeau. Je n'avais pas de chien avant d'être éleveuse, donc c'est vrai que je connaissais pas bien l'animal. Et en adoptant un chien de troupeau, il a fallu construire une relation à trois. Le chien, moi et le troupeau. C'est-à-dire que je dois gérer avec le chien une forme de complicité, mais de domination, pour qu'il travaille pour moi, à mon service, qu'il soit heureux de le faire, mais qu'il n'oublie jamais que c'est pas lui le chef de meute. C'est moi qui dois me positionner comme chef de meute. Et le dressage du chien de troupeau, il joue sur un registre très étrange, c'est que on joue sur le registre de la meute de loups qui chasse du gibier. C'est-à-dire que moi, je me positionne comme le loup dominant, et je dis à mon chien, tu es le loup dominé. C'est toi qui vas aller contourner ce troupeau de gibier, le rabattre vers moi, et quand tu auras rabattu le troupeau de gibier vers moi, c'est moi qui déciderai ce qu'on en fait. Et le chien, immanquablement, quand il rabat le troupeau de gibier vers nous, il se dit, tiens, et si j'essayais de prendre la place du dominant?
Et
il essaye de devenir chef de meute. C'est-à-dire qu'au dernier moment, il veut pas nous le rabattre vers nous, le troupeau, en disant, tiens, finalement, je vais les faire aller dans ce chemin, les brebis.
Ah oui.
Ou tiens, finalement, il y a une petite qui marche moins vite que les autres, je vais l'écarter du troupeau et je vais m'amuser avec, je vais la foutre dans le fossé. Son instinct de loup peut remonter. Pas méchamment, c'est-à-dire qu'il ne les blesse pas méchamment, mais il peut leur niaquer les fesses, il peut jouer avec certaines en les faisant courir exprès pour s'auto-exciter lui-même et se provoquer à lui-même plein de sensations pour se rappeler que il y a 10 000 générations, il était un loup.
Alors ça peut provoquer un désordre extraordinaire, j'imagine.
Ça peut être épouvantable. Mon premier chien, que je n'ai jamais réussi à dresser, éparpillait les brebis au lieu de les regrouper, les mettait sur la route, c'était épouvantable.
C'était la même année que l'année de votre première agnolage, 2012.
La première année de tout ce que j'ai entrepris était épouvantable. Ça m'a demandé une énergie incroyable pour nerveusement tenir le coup.
C'est ça, les brebis qui se laissaient pas approcher,
le chien indressable avec qui je n'arrive pas à créer de contact. Le chien, c'est un truc pas du tout inné. Alors qu'on pourrait avoir l'impression, quand on regarde un reportage à la télévision ou un concours, que les chiens savent tout faire, que intuitivement ils savent comment conduire les animaux. En fait, non, c'est un bras de fer permanent pour de domination.
Et vous avez fait des progrès maintenant, ça va mieux. Comment il s'appelle votre chien en ce moment?
Il s'appelle Minuit, le chien actuel. Alors j'ai pas fait des progrès en dressage, j'ai fait des progrès en tolérance à l'erreur.
C'est-à-dire
que j'ai renoncé, quoi.
Quand vous croisez des moutons groupés en peloton, grimpant sur un piton, quand vous croisez des moutons qui vont casser la croupe, que les moutons soient bretons, qu'ils soient de Charenton, à Paul ou à Gaston, ils sont moutons, gloutons, dit-on, tonton, tontaine, tonton. Pensez-vous, oui, pense-t-on, en voyant ces moutons avancer à tâtons, oui, tous ces moutons piétons avancer sur la route. Comment le papa mouton, parmi tant de moutons, reconnaît son fiston? Ça, c'est coton, comme dirait-on, tonton, tontaine, tonton. Les voyez-vous, les moutons, messieurs, mesdames, qui sait pourquoi côtoie-t-on tant de moutons? Même pour un papa mouton, le plus beau du canton, qui aurait du piston, rien ne résout, le sait-on, cette angoisse sans problème. Car dans tout ce peloton, à chacun nous comptons quatre pattes à menton. Pour un mouton, c'est le bon ton. Tonton, tontaine, tonton. Et pour les enfants moutons, les petits rejetons, les pauvres chatons. Hélas, nous nous répétons, le problème est le même. Car trouver papa mouton n'est pas murmure-t-on, piquer des hannetons. Tant de moutons sont leurs tontons. Tonton, tontaine, tonton. Et tant de moutons de ville en pleine, parfois ne nous prendrait-on pour des moutons, pour des moutons que l'on tond, tonton, tontaine. Mais revenons sans bâton. Croisez des moutons, groupez en peloton, grimpant sur un piton. Quand vous croisez des moutons, groupez en peloton, grimpant sur un piton. Quand vous croisez des moutons, groupez en peloton, grimpant sur un piton. Quand vous croisez des moutons.
Stéphanie Maubé, vous connaissiez cette chanson ?
Non, mais je l'adore, je vais prendre les références, c'est génial.
Est-ce que vous savez qui chante ?
Non.
Et c'est Juliette Gréco.
C'est merveilleux.
Bon, tant mieux si ça vous fait plaisir. Alors jusqu'à 15h, sur France Inter, c'est la journée particulière de notre bergère, Stéphanie Maubé. Vous voyez, je dis notre. Est-ce que vous pensiez que, quand vous vous êtes devenue bergère à vos débuts, Stéphanie, que ce serait un métier poétique ?
Non, je n'avais pas fantasmé sur la poésie du métier parce qu'en fait, je n'avais jamais pensé à devenir bergère avant de rencontrer des moutons et de me dire « tiens, je vais devenir bergère ». Donc tant mieux que je n'ai pas projeté des images ou projeté des choses. Ça m'a permis de ne pas être déçue, ouais, et de n'avoir aucune désillusion. En revanche, je pensais que c'était un métier pacifiste. Je pensais qu'élever des moutons, c'était solitaire, sans emmerde, que c'était un petit métier sympa et discret.
Ouais, et c'est pas du tout ça.
Et j'ai découvert tout l'inverse. J'ai découvert que élever des moutons et déclarer qu'il faut leur faire brouter de l'herbe quand on est une femme, pas née à la campagne, ça relève d'un acte militant qui dérange beaucoup et que j'allais dépenser beaucoup d'énergie pour l'imposer et juste pour prouver ma légitimité à le faire.
Qui dérange beaucoup, pourquoi ?
Alors donc tous les aspects que je viens de lister dérangent beaucoup. Être une femme indépendante, ça peut heurter encore en milieu rural.
D'accord.
C'est pas tant le fait d'être une femme, hein, parce que les femmes ont toujours eu une place en agriculture. Ça, personne ne leur met en cause. Mais déclarer qu'on est indépendant et que on conduit soi-même son tracteur et qu'on le répare soi-même et qu'on veut vivre toute seule et qu'on
avec
veut tout faire
enfant.
Toute seule, voilà. Ça peut être mal perçu de la part des hommes comme des femmes. Donc, par exemple, ça paraissait très suspect aux gens. Donc, beaucoup de fausses rumeurs et beaucoup de calomnies couraient sur moi.
Ouais.
Maintenant, ça s'est calmé. Mais les 3-4 premières années, j'étais presque victime de harcèlement sexuel à cause de ça. C'était assez violent. Le fait de déclarer que des moutons broutent de l'herbe, ça vous paraît peut-être une évidence quand je vous l'énonce comme ça, mais en fait c'est très militant. C'est-à-dire que de nos jours, la majorité des animaux d'élevage mangent du maïs et du soja. C'est le cas pour tous les animaux d'élevage de toute l'Europe. Et le fait de défendre qu'un mouton est un herbivore et un ruminant et que son alimentation principale doit être de l'herbe naturelle, c'est un acte militant. Puisque derrière ça, il y a le maintien des paysages, il y a la gestion des prairies, de la biodiversité, il y a l'obligation d'accepter que un animal, il a une croissance lente et que la viande sera meilleure si on l'a laissé pousser à son rythme, plutôt que si on a voulu le booster très rapidement en lui donnant des aliments énergétiques. Donc voilà, ça aussi c'est très militant.
Ça veut dire que vos pratiques sont à l'exact opposé de celles de la production industrielle, de l'industrie alimentaire. C'est ça que vous êtes en train de dire, Stéphanie Maubé.
Oui. Les gens comme moi sont des résistants, parce que je ne suis pas toute seule. Hein. On est quand même assez nombreux, notamment dans les zones de montagne, et que ce soit en production de vaches, de poules ou de moutons. Il y a un socle de résistance, mais nous sommes vraiment des résistants parce que toute notre profession nous incite à changer nos pratiques et à amener à nos animaux de l'alimentation dans des auges au lieu de les laisser brouter de l'air naturel.
Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler, Stéphanie Maubet, des vaches ? Vous parliez des vaches à hublot.
J'en ai entendu parler une fois, je crois que c'était l'année dernière. C'était épouvantable.
Vous avez compris ce que c'était ?
Alors, si j'ai bien compris, vous allez me recadrer si j'ai mal compris, c'est un... On leur pose sur le côté de la panse, ouais, une espèce de fenêtre ronde qui s'ouvre et qui se ferme et qui permet d'aller faire des prélèvements à l'intérieur de la panse pour analyser la manière dont elle digère ou ne digère pas certaines substances et certaines céréales ou certains...
Pour les engraisser plus vite.
Oui, voilà. Alors, si j'ai bien compris, les vaches à hublot, ce sont juste des vaches expérimentales.
Oui. Et ça existe aujourd'hui encore.
Pour ce technicien, la panse d'un bœuf est une source de savoir dans laquelle il puise abondamment. Cet animal, pourtant bien vivant, n'est en fait qu'un appareil de mesure, une chaîne de fabrication. À l'entrée, on pèse la nourriture ingérée, et à l'autre extrémité de la chaîne, on pèsera aussi les sorties. Pour juger de ce qui s'est passé entre les deux, à l'intérieur de l'usine vivante, on fait des prélèvements à tous les stades de fabrication grâce à des fistules. Ainsi pourra-t-on forcer et même accélérer la capacité des bœufs à produire de la viande. Encore quelques efforts et même quelques coups de pompe à vélo, et le hublot sur la vie sera à nouveau fermé, plus étanche que jamais. Grâce à ces incursions dans les entrailles de la bête, on sait maintenant que pour améliorer le rendement des bovins, il faut abandonner les fourrages d'antan. Ce qu'il faut maintenant, c'est une nourriture particulière, faite de maïs traité, ou même le plus souvent, de granulés de luzerne. Ainsi, l'animal mange plus dans le même temps, et cette nourriture profilée traverse plus vite et plus efficacement son organisme producteur.
Stéphanie Maubet, ça résonne tout à fait avec ce que vous veniez de nous dire, hein, améliorer le rendement et améliorer aussi la capacité à produire plus de viande pour ces vaches.
Oui, c'est un cauchemar. Et quand j'entends ça, ce reportage, ce qui me heurte, ce qui me blesse, enfin ce qui me révolte, c'est que là où je vis, dans le centre Manche, les agriculteurs autour de chez moi, en ayant entendu ce reportage, ne le trouvent pas épouvantable. C'est-à-dire que les producteurs conventionnels ne sont pas horrifiés par le fait de faire un trou dans la panse d'un bovin. Ils estiment que c'est une technique pour améliorer le rendement des troupeaux et donc indirectement améliorer leur mode de production et leur qualité de vie. Donc non seulement ce reportage il est épouvantable, mais il faut savoir que beaucoup d'agriculteurs conventionnels ne le trouvent pas épouvantable.
Et alors quand vous parlez avec eux et que vous parlez des droits élémentaires des animaux, qu'est-ce qu'on vous répond ? Brouter, grandir.
Je suis pas considérée comme une éleveuse par les éleveurs qui travaillent autour de chez moi. C'est-à-dire que je suis trop un ovni dans ce que je défends. Quand je dis donc, il faut remettre des vaches à l'herbe, les laisser brouter, l'herbe qui pousse naturellement au fil des saisons. En fait, je n'ai même plus de discussion possible avec certains éleveurs parce que le métier que nous faisons n'est plus le même.
Alors, il y a une femme qui nourrit votre réflexion, Stéphanie Maubet, une femme qui est importante pour vous, qui s'appelle Jocelyne Porcher, et qui est une femme qui vous ressemble aussi d'une certaine manière, parce qu'elle est aussi une néo-rurale. Elle a tout quitté pour devenir aussi éleveuse. Elle a travaillé ensuite dans une porcherie industrielle. Elle a été révoltée par cette expérience. Et c'est suite à ça qu'elle a décidé de faire des études pour devenir ingénieure à Grenoble. Et aujourd'hui, elle est directrice de l'INRA à Montpellier. Et elle travaille depuis plusieurs années sur les relations affectives entre l'éleveur et ses animaux. Je vous propose qu'on l'écoute un peu.
Depuis 20 ans qu'il y a des recherches en France sur le bien-être animal, la situation des animaux a empiré, mais d'une manière dramatique, quoi. 20 ans de recherche, des millions d'euros investis dans la problématique du bien-être animal, pourquoi faire ? Alors moi, mon hypothèse, c'est que cette histoire de bien-être animal, du fait qu'elle a été investie par les biologistes, les comportementalistes, en fait, sert à la durabilité des systèmes industriels. Voilà, en gros, c'est ce que je crois. Du coup, c'est l'animal qui concentre l'attention, l'homme disparaît complètement. Conditions de travail, les effets de la modernisation, la destruction de la relation entre hommes et animaux, voilà, tout ça disparaît, ça se concentre sur le bien-être animal, et du coup, comme c'est pris en main par des biologistes, évidemment, c'est l'animal biologique qui est en question, c'est pas l'animal comme individu subjectif, pris dans une relation intersubjective de travail avec les éleveurs. C'est juste un objet biologique, donc voilà, on étudie, voilà. Des hormones, le stress, l'adrénaline, enfin bon, tout un tas d'objets biologiques. Bon, jusqu'à aujourd'hui, la douleur, voilà, la douleur. On parle de douleur, pourquoi ? À mon avis, pour éviter de parler de souffrance, parce que la souffrance, forcément, c'est quelque chose de collectif, c'est un trait à la relation.
Donc c'était donc Jocelyne Porcher, Stéphanie Maubé, vous l'avez reconnue, évidemment. Elle vous accompagne, vous, dans votre... dans votre pratique, dans votre élaboration de la relation à vos animaux, parce qu'elle dit des choses très intéressantes autour de l'animal comme objet biologique. Vous êtes encore une fois complètement à l'opposé de ça.
Je l'ai rencontrée récemment dans le cadre du livre que nous avons écrit, et je ne connaissais pas ses paroles ou sa philosophie auparavant, et de l'entendre mettre des mots aussi clairs et aussi intelligents sur... l'immense complexité de la relation homme-animal, c'était passionnant et c'était une révélation. La manière dont elle pose des mots sur cette relation interdépendante et d'osmose, j'ai envie de dire, entre un troupeau et son éleveur, c'est d'une finesse, d'une subtilité qui me touche beaucoup.
Quel mot vous mettriez justement, vous, Stéphanie Maubé, sur cette relation que vous avez avec vos bêtes, vos brebis ?
Eh bien, osmose convient bien, ou interdépendance, parce que les brebis ont besoin de moi. C'est-à-dire qu'un animal d'élevage, c'est pas un animal sauvage. Nos animaux d'élevage, ils peuvent plus vivre sans nous. Ils ont été domestiqués par l'homme il y a des milliers d'années, et l'idée complètement crétine de les remettre en liberté fonctionnerait pas parce qu'ils mourraient. C'est-à-dire que les animaux d'élevage, ils ont des parasites, il faut les déparasiter, il faut les nourrir en hiver parce qu'ils savent pas faire des provisions dans leur corps pour vivre en hiver. Ils ont besoin de nous. Et nous, on a évidemment besoin d'eux aussi puisqu'ils nous nourrissent. Et cette interdépendance, elle n'est pas du tout contradictoire avec le plus grand respect qui doit aller dans les deux sens. Et je n'ai pas l'impression de leur faire du mal quand je les destine à la boucherie, parce que tout au long de leur vie, moi j'ai respecté ma partie du pacte, c'est-à-dire que je leur ai amené le meilleur pour que leur condition de vie soit le plus conforme à leurs besoins naturels.
Au pied. Zut, et c'est il y a des agneaux qui pensent qu'ils sont les meneurs. Et les brebis, et donc il y a Bernadette qui court pour récupérer sa place de meneuse. J'en mets pas question. Gala, au pied. Les mises à l'herbe, c'est un peu comme d'envoyer ses enfants dans une mer pleine de requins. Et c'est assez stressant parce que pour certains de ces agneaux, c'est la dernière fois que je les vois, je les reverrai jamais. Soit ils vont mourir enlisés, soit ils vont se faire voler. C'est la règle du jeu, voilà, faut que les animaux sortent et que le troupeau retrouve son autonomie. Ah, le niveau a un petit peu monté, le niveau de l'eau. Ouais. Je pense qu'elles vont pas y aller avec grand plaisir. Ça a un peu monté. Gala, viens au pied. Ouais, ouais. Bon, Bernadette, il va falloir montrer l'exemple.
Stéphanie Maubé, j'étais partie, je vous voyais en train de traverser ce cours d'eau en enlevant vos bottes pour réussir à faire traverser votre troupeau qui ne veut plus avancer. Et là, justement, on comprend tout parce que c'est la sortie de l'hivernage et il faut que vous appreniez aux agneaux à ne pas se perdre, à savoir se protéger du vent. Là, votre rôle est très important à nouveau.
Oui, si vous me réinvitez un jour dans cette émission, ma journée particulière, ce sera la mise à l'herbe.
Ah oui,
parce que c'est effectivement un grand cap dans la vie du troupeau. C'est la sortie de bergerie et la découverte de la vraie vie. Et c'est un... c'est l'enjeu le plus important de la vie d'un agneau, puisque le moment où il va être confronté à l'extérieur, c'est-à-dire à l'immensité de l'espace, au mélange avec les autres troupeaux, ça va être décisif. Il faut qu'il prouve qu'il est capable de suivre sa maman, que même s'il se paume, il est capable de l'appeler et qu'elle, elle va revenir. Si la maman, elle a deux agneaux, il faut qu'elle soit autant attentive à l'un qu'à l'autre. Il va falloir qu'elle leur apprenne quelles sont les bonnes herbes à brouter, quels sont les endroits sécurisés pour traverser un ravin ou la rivière sans s'enliser. Comment on se met à l'abri de la pluie quand il n'y a pas d'abri?
Ouais.
Comment on se met à l'abri du soleil quand il n'y a pas d'ombre? Tout l'apprentissage de la vie du mouton va se faire à partir du premier jour de la mise à l'herbe.
Et là, vous avez un rôle très important. C'est vous qui leur apprenez.
C'est moi qui dois donner à la maman confiance pour qu'elle apprenne à ses agneaux.
D'accord, j'ai compris. Mais ce que je comprends aussi, c'est que faire brouter ses brebis n'est pas le choix de la facilité ni de l'argent.
Non, c'est moins rentable à court terme que de les avoir gardés dans une bergerie, à engraisser les agneaux et puis ne les faire sortir de la bergerie que quand ils sont bien ronds pour les amener à l'abattoir. Quand on les confronte à un milieu naturel, il y a plein de risques de mortalité, de perte, de vol, de faible croissance, parce que j'ai parfois en fin d'année des agneaux qui n'ont pas assez pris de poids, qui sont trop petits parce que l'herbe n'était pas assez nourrissante, donc je ne peux pas les vendre. Oui, c'est beaucoup moins rentable, mais ça permet d'être fier de la qualité qu'on produit.
Et de la nourriture que vous nous donnez à manger.
Absolument, et ça n'a évidemment pas de prix, et je peux regarder mes brebis dans les yeux en sachant que je leur ai amené le meilleur et elles ont accès à la meilleure herbe du monde.
One, two, three...
Today I walk down the street I used to wander. Yeah, shook my hand and made myself a bet. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get? I brush my shoes and I hum from the rearview mirror. Bronze the admiration in a blind spot of regret. There was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky I can one man get. I walk down the street I used to wander. Yeah, scratch my head and lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I remember. Hey, how lucky can one man get?
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Alors Stéphanie Maubet, votre journée particulière, c'est le 5 janvier 2012. L'année 2012 avait commencé avec le naufrage du paquebot Concordia au large de la Toscane. Vous vous souvenez de ça, de ces images?
Mais oui, mais qu'elle est épouvantable aussi. Oui, tous les symboles là-dedans, épouvantables.
En 2012, il y a un incident important à la centrale de Fessenheim qui alerte l'opinion sur la vétusté et le danger que représente la plus vieille centrale de France. Vous vous souvenez de ça aussi?
Alors non, mais probablement parce que nous, dans le Cotentin, on a ce qu'il faut en nucléaire, donc on a nos propres peurs locales.
Vous en avez beaucoup?
Des peurs, on en rigole, mais je crois que c'est un peu sous-jacent quand même tout le temps. Oui,
il y a combien de centrales?
Je ne saurais pas vous dire avec précision, mais on sait qu'il y a du nucléaire, il y a du déchet nucléaire, il y a des trucs.
Il y a des trucs. Alors en 2012, plus léger, on fêtait en grande pompe le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II. C'est des choses que vous regardez quand vous êtes fatigué de vos brebis à la télé ?
Non, parce que je n'ai pas la télévision.
Et le 26 décembre 2012, rappelez-vous, le Conseil d'État valide la suppression du mademoiselle dans les documents administratifs.
Ce qui m'a bien emmerdée, parce que c'est plaisant de continuer à cocher mademoiselle, même quand on approche de la quarantaine.
Et oui, c'est fini. En 2012, Rihanna chantait Diamonds, Shakira reprenait Je l'aime à mourir, et Adèle, cette chanson de James Bond. J'ai l'impression que vous êtes passée à côté. Vous n'êtes pas très James Bond.
Je suis passée à côté de la culture depuis 13 ans, en fait.
Vous n'écoutez rien, vous ne regardez plus...
Alors, j'écoute France Inter dans ma voiture,
ouais.
Mais c'est tout. Donc, j'écoute la playlist de France Inter en continu et je ne me souviens pas que Adèle était dans la playlist 2012.
Certainement pas. Un autre événement de l'année 2012, un événement très important, c'est la Cour de cassation qui rend son arrêt concernant la procédure du procès Erika. Erika, vous vous souvenez, cette énorme marée noire qui avait eu lieu en décembre 99, 30 000 tonnes de fioul lourd déversées sur nos côtes.
Je me souviens des images des plages noires. Oui, épouvantable. Là où je suis, dans le Cotentin, on en a eu d'autres, des marées noires précédentes, mais dont on parle encore, qui ont traumatisé les gens. En fait, dans mon quotidien, je réalise que les prés salés, c'est cette espèce de zone éponge entre l'intérieur des terres et la mer. Et dans les prés salés, on ressent tout. C'est-à-dire qu'on ressent les vagues de pollution qui viennent du large, mais aussi les vagues de pollution qui viennent de l'intérieur des terres. C'est-à-dire par le ruissellement de toutes les petites rivières qui nous amènent des nitrates, des stations d'épuration plus aux normes. Donc les prés salés sont un point de convergence assez éloquent sur l'état biologique de l'eau sur nos côtes.
Et est-ce que vous avez déjà eu du pétrole dans vos prés salés ? Vous avez déjà vu des petites...
Depuis que moi j'y suis, non, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Par contre, on a des algues vertes depuis 3-4 ans, ce qu'il n'y avait pas avant.
Et est-ce que vous voyez le niveau de la mer monter ?
Oui, ça on le ressent, puisque année après année, les marées sont de plus en plus puissantes et elles gagnent du terrain. C'est-à-dire que les marées recouvrent des zones qui n'étaient pas recouvertes il y a peu de temps. C'est pas juste lié à la montée du niveau de la mer, hein, c'est aussi lié à l'évolution du trait de côte, puisqu'on a des dunes qui parfois s'effondrent sous les tempêtes et qui laissent la mer monter beaucoup plus haut, ou des dunes qui se reforment à d'autres endroits et qui atténuent les effets de la mer. Le littoral est mobile et dynamique. Et chaque année, je plante un petit poteau dans un de mes champs à l'endroit où la mer monte, et j'avoue que chaque année, je remonte mon petit poteau parce que la mer monte de plus en plus haut année après année.
Stéphanie Maubet, juste avant de nous quitter, on voudrait vous faire écouter ça.
Les moutons. Sous le lit, il y a des moutons. Un chat, un chien et un berger qui se promènent en toute liberté dans les rayures du parquet. Parfois, un mouton bêle, le chat miaule, le chien aboie, le berger chante. Alors on va chercher l'aspirateur et l'on chasse tout ce joli monde.
Un peu de poésie, c'était Pierre Fresnay qui disait ce poème de François Posseau. De la poésie pour ce métier plus difficile que vous ne l'aviez imaginé. Et parfois vous avez envie de passer l'aspirateur, vous aussi.
Non, j'ai renoncé à plein de choses dans ma vie, dont l'aspirateur. Ah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez moi c'est crados, mais c'est pas grave, ça n'est aucunement mes priorités et je préfère être dehors plutôt qu'en train de m'occuper de mon intérieur.
Ça veut dire que votre maison a complètement changé, vous avez changé aussi votre façon de vivre dans votre intérieur.
Ah oui, totalement, ma façon de vivre, ma façon de consommer, mon rapport aux autres, ma manière de m'habiller, ma vie entière a été révolutionnée en devenant éleveuse.
Ouais. Et comment c'est votre maison dedans alors? Il n'y a pas de brebis, il n'y a pas de moutons, il n'y a pas de chiens.
Il y a des chiens et des chats, c'est jamais fermé. Il y a des gens qui y vivent, que je connais pas toujours, puisque je prête ma maison à qui veut, à des woofers, à des gens de passage en vélo. C'est un petit peu bohème, mais ça ressemble davantage à ma relation avec le reste du monde que quand j'étais dans un appartement parisien de 27 mètres carrés, que je payais une fortune.
Bon, merci Stéphanie Maubé d'avoir passé cette heure avec nous, c'était très agréable. Alors, il y a donc un livre qui est sorti sur vous, sur votre parcours, un livre qui a été publié aux éditions du Rouergue,
oui,
c'est ça ?
Oui, qui est co-écrit par moi et un journaliste.
D'accord, quel est le nom du journaliste ?
Yves Deloison, et le livre s'appelle « Il était une bergère ».
Et sur le site de l'émission, on peut retrouver aussi les références du film qui vous a été consacré, qui s'appelle « Jeune bergère » et qui a été réalisé
par Delphine Détry.
Merci Stéphanie Maubé.
Merci à vous de m'avoir donné la parole.
C'était une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, Alina Véronique Jolivet, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka et à la technique aujourd'hui Ronan Mahé. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine.